Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Cours d'honneur saison 2 épisode 10, nous revoilà. Une émission de la bande Radio Sorbonne diffusée sur Radio Campus. Bienvenue, on vous accueille dans notre amphi. Ici, on est en pleine période de TD, rien que DDM. N'hésite pas à nous contacter sur les RS, on est là pour toi. Pour te filer tous les meilleurs plans de la capitale, on se retrouve une fois par mois ensemble pendant une heure. On rejoue les meilleurs programmes de Radio Sorbonne Université, la radio étudiante de la plus vieille fac de France, sur la première radio étudiante de la capitale. Pendant une heure, on te promet de la culture.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
Mais aussi beaucoup de rumeurs.
Madame, je ne sais comment, mais il faut que je vous le dise. Je vous aime.
Également du love pour les plus chanceux.
8 femmes sur 10 pensent que le premier baiser va leur révéler tout ce qu'elles doivent savoir sur l'avenir de leur relation. Et fais-moi confiance, cette scène, 100 fois, elle l'a imaginée.
Et du style, bien sûr, dans cette émission.
Cessez vos efforts pathétiques pour essayer de me draguer. La seule idée que vous pourriez avoir une seule chance, c'est déjà une insulte vis-à-vis de moi.
Voici nos promesses pendant une heure et une équipe bien déterminée pour vous servir. Bonsoir Marine.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir Ennis.
Bonsoir Thomas.
Vous êtes ici chez vous, installez-vous, le décollage est imminent du haut de l'amphi au fond des chambres de bonne. Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et tout de suite, on passe à notre premier invité.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Marine, Eni, vous recevez notre première invitée.
Eh oui, ce soir nous recevons Pierre-Henri Tavoyot, professeur de philosophie à Sorbonne Université. Rappelons que vos recherches portent principalement sur la philosophie de l'éducation, notamment les questions des âges de la vie, ou encore les enjeux de l'autorité et de l'art politique à l'âge démocratique. Pierre-Henri Tavoyot, pardon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'autorité et de la gouvernance à l'âge démocratique. Ces questionnements ont déjà donné lieu à deux ouvrages, « Qui doit gouverner ?» et « Comment gouverner ?»« Pourquoi gouverner ?» le troisième volet qui paraîtra prochainement. Première question, pourquoi avoir pensé cette réflexion sur la gouvernance démocratique comme un triptyque ?
C'est un triptyque avec, disons, le deuxième moment qui est le moment le plus important. Le premier moment, c'est une réflexion sur, disons, la philosophie politique en général. C'est une sorte d'histoire de la philosophie politique. Mais le deuxième moment se focalise effectivement sur l'art politique démocratique, parce que c'est un art politique très compliqué, en fait. Et d'une certaine manière, même par rapport aux anciens, c'est beaucoup plus difficile de gouverner un peuple roi, donc une démocratie, qu'on pouvait le faire auparavant. Et pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que, en fait, l'art politique démocratique demande au moins quatre fonctions qui sont assez largement contradictoires. C'est-à-dire, il faut d'abord gagner des élections, donc il faut un peu d'audace. Il faut mener des délibérations, donc ça, il faut un peu de modestie et d'humilité. Il faut prendre des décisions, ça, il faut avoir beaucoup de courage. Et puis après, il faut avoir la reddition de comptes, c'est-à-dire accepter de faire ses tiroirs et de partir, parce qu'on organise la fin du pouvoir. Ces quatre éléments sont contradictoires. C'est-à-dire celui qui aura les quatre, à la fois la modestie, le courage, la modestie, l'ambition, c'est vraiment très difficile. Donc, il faut que nous, citoyens des démocraties, comprenions aussi que nous sommes très difficiles à gouverner. Et donc l'art politique démocratique, c'est aussi un art politique du citoyen, savoir comment être lui-même gouverné.
Et alors justement à ce propos, si le qui et le comment des deux premiers ouvrages interrogeaient plutôt les modalités, on va dire, pratiques du fonctionnement de la démocratie, le pourquoi se centre plutôt sur une réflexion quant à un horizon spirituel, on va dire, de la démocratie. Mais alors justement, quel sens prêtez-vous à la démocratie ?
Alors ça, c'est le prochain ouvrage sur lequel je suis en train de travailler, donc je vais vous faire un scoop.
Ah oui.
Non, je crois que ce qui caractérise la démocratie, même la spiritualité démocratique, on peut utiliser ce terme parce que c'est pas quelque chose d'anodin. C'est vraiment, je résumerai ça en une phrase, c'est la civilisation des grandes personnes. C'est-à-dire dans l'univers, dans des civilisations, il y a eu des civilisations impérialistes, machistes, tout ça, enfin, ça existe, mais il y en a une seule qui a été anti-impérialiste, qui qui a intégré la critique de l'impérialisme, intégré la critique de l'occasionnisme. Il y en a une seule qui a aboli l'esclavage, il y en a une seule qui a permis l'émancipation de la femme, et il y en a une seule qui a considéré cette idée toute bête que tous les hommes sont, tous les humains sont grands. Voilà, sont grands. Ça s'appelle l'égalité, que tous les humains peuvent grandir, et peut-être qu'ils peuvent grandir ensemble. Voilà. Et ces trois éléments de la spiritualité démocratique me semblent être vraiment le trésor que l'on ne doit pas oublier, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, et qu'on doit essayer de reconquérir pour en trouver effectivement la grandeur et permettre effectivement que les tensions qui existent dans nos sociétés peut-être s'atténuent un peu.
Et alors, toujours sur ce mystère, on va dire, de la démocratie, Abraham Lincoln avait par exemple proposé une des définitions, on va dire, les plus grandioses. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais le problème n'est-il pas encore de savoir qui est le gouvernement et qui est le peuple ?
Oui, c'est le point de départ du deuxième tome. C'est effectivement, qu'est-ce qu'un gouvernement ? Rien que ça devrait nous tétaniser d'angoisse, parce que c'est un problème. Toute la philosophie politique occidentale, mais aussi orientale, chinoise, indienne, traite de ce sujet et n'a pas trouvé, ça se saurait, des solutions. Et puis surtout la question, qui est le peuple ? Parce que évidemment, là, dans les débats présent, on a entendu « mais le peuple est contre la réforme, le peuple est dans la rue ». Ah non, il y a du peuple qui est contre la réforme, il y a du peuple qui est dans la rue, mais ce n'est pas le peuple. Et on confond le peuple, l'opinion, la foule, bon, tout ça. Le peuple, c'est vraiment la question piège. Et pourtant, c'est la question centrale d'une démocratie. La démocratie, c'est démos, kratos, le peuple, et kratos, le pouvoir du peuple. Donc il faudra essayer de trouver ça. En fait, on est dans une sorte de litanie quand on réfléchit. On dit bah, le peuple, mais je sais ce que c'est le peuple. Il suffit que je sorte dehors et je vais le rencontrer, le peuple. Non, c'est pas le peuple, c'est du peuple. Après, on dit, bon, bah, d'accord, je sais pas qui est le peuple, mais on va trouver qui est l'ennemi du peuple. Alors, l'ennemi du peuple, on va en faire la liste. Alors, c'est les immigrés, c'est les assistés, c'est les élites, etc. Et ça va être tellement long, cette liste des ennemis du peuple, qu'on va finir par se retrouver tout seul. Et puis, peut-être l'idée viendra de dire, finalement, le peuple, c'est moi. Et on s'imposera dictateur. Et puis c'est reparti pour un tour parce qu'on sera de nouveau déçus. Moi, ma proposition, c'est de dire le peuple en démocratie, c'est au fond essentiellement une méthode de vie, pas seulement de vie, de décision et de décision collective. Et c'est cette méthode que je décrivais tout à l'heure. Pour qu'il y ait peuple en démocratie, il faut des élections, de la délibération, des décisions et de la reddition des comptes. Et s'il manque un seul élément de cette méthode, on sort de la démocratie. Voilà. Cette méthode est universelle. Mais chaque pays, chaque culture l'applique à sa manière. C'est pour ça que les démocraties sont très différentes en Inde, en Angleterre, aux États-Unis, en France. Chacun regarde les autres comme un peu des hurons. Ce qui est important, c'est que ces quatre piliers soient vraiment présents.
La démocratie, donc, comme une méthode. Pour autant, la démocratie est régulièrement décriée, remise en cause. Le phénomène des Gilets jaunes en est une des manifestations les plus vives de ces dernières années. Pourtant, jusqu'à présent, la démocratie a toujours survécu. Comment expliquer alors que la démocratie semble fonctionner un peu, sans jamais parvenir à coller jusqu'au bout de ses ambitions ?
C'est un régime déceptif. La démocratie nous promet énormément. Elle nous promet en France la liberté, l'égalité, la fraternité. Soyons clairs, on ne sera jamais totalement libre, jamais totalement égaux, jamais totalement fraternel. Et puis le bonheur va nous échapper. Donc c'est un régime déceptif. Et c'est ça qui est difficile pour la démocratie. C'est qu'il faut accepter d'être déçu par la démocratie pour bien la faire fonctionner. Et moi, j'appelle ça être adulte. Et nous ne sommes pas totalement encore dans une démocratie adulte. L'adulte, c'est celui qui n'est pas tout puissant, qui n'est pas omniscient, qui sait qu'il ne peut pas tout et qu'il ne sait pas tout. Mais il va se débrouiller avec, il va faire le boulot. Et donc, on avance par petits pas vers la liberté, vers l'égalité, vers la fraternité. Et puis, il ne faut pas vouloir tout de suite, parce que ça produit une révolution. Et en général, les révolutions, je ne suis pas un révolutionnaire, en général, ça retarde les conquêtes. On dit souvent qu'on a besoin de la radicalité pour avancer. Je pense exactement le contraire. La radicalité freine, la radicalité trahit les causes, qu'elle soit la cause de la défense des femmes, des homosexuels. La radicalité, à chaque fois, est un frein. Et au contraire, la réforme permet effectivement d'avancer.
Merci.
Pierre-Andy Tavoyot, vous avez une formation en philosophie. En quelques mots, pouvez-vous résumer ce qu'est la philosophie politique et ce qu'elle représente dans votre vie ?
Alors j'ai une formation en fait plus vaste que ça, parce que j'ai fait d'abord des études d'histoire, ensuite des études de sciences politiques, après des études de philosophie. Et puis c'est vrai qu'en testant toutes ces sciences humaines, je me suis dit que la philo c'était le meilleur, parce que c'était plus performant. C'est pas vraiment, c'est utilitaire, hein. Ça marche mieux, ça explique davantage, c'est plus efficace. Voilà. Et la philosophie politique particulièrement, parce que c'est une partie de la philosophie. Hein. Moi j'aime bien cette définition de la philosophie de Kant, hein, qui dit, voilà, c'est trois questions, la philosophie, c'est que puis-je savoir, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer ? La philosophie politique politique rentre dans la catégorie du « que dois-je faire ?». Et donc « que dois-je faire ?», en général, ce n'est pas « que dois-je faire ?» avec mon robinet quand il fuit, hein, c'est « que dois-je faire ?» quand les autres sont là. Et il y a trois manières de faire avec les autres. Il y a la morale, il y a le droit et la politique. Vous voyez, donc la philosophie politique, c'est une toute petite partie de l'immense philosophie. Et il faut bien faire attention, quand on fait de la philosophie politique, de ne pas la confondre avec la philosophie morale, qui a toute sa noblesse, la philosophie du droit, qui est très importante. La philosophie politique, pour moi, c'est effectivement une philosophie qui a la décision en ligne de mire. Hein, c'est-à-dire la décision. C'est, vous voyez, délibérer, on peut discuter ensemble, voilà ce qu'on fait en moment, on n'a pas de décision à prendre. Mais quand on a une décision à prendre, ça c'est de la délibération. Examiner avant décider. Et l'art politique, pour moi, est vraiment intéressant parce que c'est un art qui décide. Or, quand on décide, en général en politique, c'est jamais entre une bonne et une mauvaise option, mais entre une mauvaise et une pire. Ça s'appelle la tragédie, c'est pour ça que la politique est toujours déceptive, toujours fâcheuse, parce qu'on n'est jamais content. Mais c'est ça aussi qui fait la grandeur de cette dimension.
Notre grand témoin de l'émission d'aujourd'hui, Pierre-Henri Tavoyot, va être confronté désormais à la deuxième partie de l'émission, deuxième partie consacrée à la voix de nos étudiants que l'on donne sur Radio Sorbonne Université, puisqu'il est 20h passé de 13 minutes, et place maintenant au reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Avant les vacances, une équipe de RSU s'est rendue à l'occupation du campus de Clignancourt pour rencontrer les occupants et entendre leurs revendications.
Oui Thomas, il y a 2 semaines donc, une assemblée générale a eu lieu au campus de Clignancourt. 450 élèves ont voté l'occupation du campus pour une durée indéterminée. L'occupation a duré 5 jours et a empêché tout cours de se dérouler dans la fac. Nos reporters Abel et Louise ont rencontré la cinquantaine d'occupants, essayé de comprendre leur action et leurs revendications.
À 10h, nous arrivons devant les hautes grilles de l'établissement, fermées. Impossible d'entrer. On rencontre Dima, étudiante en musicologie, qui vient tous les jours pour soutenir les occupants et occupantes. Elle répond à nos premières questions.
Donc nous sommes avec Dima. Dima, bonjour.
Bonjour.
Dima, tu participes à l'occupation du campus de Clignancourt.
C'est ça.
Et tu peux nous dire un peu comment ça se passe, depuis combien de temps il est occupé, combien vous êtes
Alors, on occupe depuis mi-lundi. On a voté en AG lundi l'occupation et dès l'après-midi, ça s'est mis en place. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on s'organise avec des comités. On a un comité de sécurité pour que tout le monde soit safe et se sente bien. On a un comité anti-VSS, donc violence sexiste et sexuelle, pour que tout le monde se sente safe, encore. On a un comité bouffe, pour manger. Et on a un comité com, pour que les gens soient un petit peu au courant de ce qu'on fait. Et il y a des roulements dans tous les comités pour que tout le monde puisse se reposer.
Ouais, bah, en fait, ça se passe super bien. On essaye de vivre tous en communauté. On est une petite cinquantaine, ça dépend des moments de la journée, parce qu'il y en a qui prennent la relève, etc. On a organisé pour avoir des gens qui font la sécurité la nuit, qui font des rondes. On a des règles de vie bien précises, donc pas de dégradation, on fume pas à l'intérieur, enfin les règles de vie normales du bahut de base. En plus, on fait des AG, on fait en sorte qu'il y ait toujours une personne dans les salles pour pouvoir les garder. Ça, c'est nos revendications, du coup, c'est de pouvoir avoir le bahut qui est ouvert à tous, qui est des cours ouverts, en fait, sur la mobilisation, qu'est-ce que c'est. Voilà, on veut faire venir des associations, en fait, parce que là, la fac, pour l'instant, ils nous ont juste interdit de se mobiliser, en quelque sorte. Ils n'ont pas accepté que 3 députés viennent, alors que même les 3 députés ont envoyé un mail à la présidence. Et depuis le début, là, la présidence, elle vient pas nous voir, elle nous parle pas.
Après le départ de nos reporters, le campus est évacué par les forces de l'ordre vers 18h30. Finalement, la mobilisation des étudiants n'aura pas changé la donne dans la lutte contre la réforme des retraites, contrairement à ce que prédisaient certains éditorialistes. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que ce n'est pas une fonction d'une lutte étudiante de transformer ou de changer la réforme des retraites. Encore une fois, voilà. Il faut se méfier des effets de démocratie. C'est pas parce qu'on se met à quelques ans dans une salle et on dit qu'on est contre quelque chose que c'est démocratique. Moi, le fonctionnement d'une AG, c'est un effet de démocratie, mais c'est pas une démocratie. On sait très bien d'ailleurs qu'il y a des techniques. Manipuler une AG, moi je sais, j'étais en 86, très à la pointe.
Un professionnel.
Voilà, je connais un peu ça et je sais comment on manipule un amphi. C'est très facile. Voilà, on réunit, on prend le micro, on fait durer les débats pour que les gens commencent à partir. sortir. Et puis au moment du vote, on fait venir les gens qui sont les copains et on fait passer le vote. Donc il y a plein de techniques qui sont bien connues. Et donc c'est pas justement ce qui distingue le débat parlementaire, c'est très différent. Le débat parlementaire, il y a des droits de la minorité, il y a un respect des règles, et ça permet de garantir le caractère démocratique de la discussion et de la délibération. Donc une AG, pour moi, n'est pas un lieu démocratique, c'est un lieu où on apprend des choses. Je dis pas, je trouve que c'est un élément de formation, d'une certaine manière, et c'est important d'avoir vécu ça dans sa vie, mais ne faisons pas de ça le modèle d'une démocratie. Que 50 personnes bloquent une université de 15 000 étudiants, je veux dire, c'est pas la démocratie, soyons bien clairs.
La théorie du dentifrice est-elle fausse? Comme le dentifrice, une fois que la jeunesse est sortie, il est impossible de la faire entrer.
Oui, bah ça, j'étais membre de cabinet ministériel et donc j'entendais souvent cette... donc c'était en 2002, donc à l'Éducation nationale, donc j'entendais souvent cette phrase où c'est toujours un peu la crainte. C'est beaucoup moins le cas. Pourquoi ? Ça, c'est un problème d'ailleurs des logiques révolutionnaires aujourd'hui, c'est que les logiques révolutionnaires n'ont plus tellement de main-d'œuvre révolutionnaire. Aujourd'hui, les ouvriers qui faisaient la base de la révolution sont plutôt des conservateurs, voire des réactionnaires. Ils votent plutôt au Rassemblement national, donc ils ne sont pas prêts de faire cette révolution-là. Les étudiants sont quand même préoccupés par leurs études, et je les comprends, parce que moi, personnellement, je suis très triste de voir que depuis six ans, aucun semestre complet n'a eu lieu à la Sorbonne. Depuis six ans, donc vous êtes en master pour certains d'entre vous, il n'y a pas eu un semestre complet. C'est désastreux sur le plan de la formation, c'est désastreux. Moi, je suis vraiment très, très en colère par rapport à ce... Et sur des sujets extrêmement variés, donc c'est un peu tout et n'importe quoi. Et donc, ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment très, très fâcheux, cette affaire. Et puis, cette logique un peu, disons, d'effet de démocratie, comme je disais, peut produire effectivement une situation de grande confusion. Et je vois beaucoup de confusion aussi chez les étudiants. La dernière population disponible, ce sont les lycéens, qui sont très ciblés parce qu'on estime qu'ils sont possibles. Mais même les lycéens sont en train maintenant de se dire que c'est quand même important. Il y a Parcoursup, tous les trucs, donc il faut faire attention. Donc voilà, ça c'est un problème. La main-d'œuvre révolutionnaire manque un peu quand on est à l'extrême gauche, ce qui n'est pas mon cas.
Après la réforme des retraites, d'après vous, la démocratie française sort-elle grandie ou affaiblie cette séquence ?
Je dirais pas que c'est un épisode démocratique, je dirais ni affaibli ni grandi. C'est une crise qui n'est pas une crise de régime. Contrairement à ce qu'on dit, personnellement, je suis pas du tout.
Vous n'adhérez pas à cette thèse
la thèse par exemple de Pierre Rosanvallon, pas du tout. C'est même exagéré de dire que c'est la pire crise depuis la guerre d'Algérie. 68 était une crise quand le général de Gaulle part à Baden-Baden et que personne ne sait où il est. Là, on a une crise de régime institutionnel. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, nos institutions tiennent. C'est pas optimal parce qu'on a une situation politique extrêmement complexe, confuse, avec des lignes de front qui sont d'ailleurs, du point de vue idéologique, assez peu défini. C'est-à-dire que si on demande à la France insoumise, si on demande au Rassemblement national, à LR, au PS, à la Renaissance, quel est leur corpus intellectuel et idéologique, je crois qu'ils vont être très très peu armés pour le faire, même dans des partis qui sont réputés plutôt efficaces sur le plan idéologique. Voilà. Par exemple, je donne un exemple, quand Ruffin, qui est un personnage que j'aime bien, défend le retraité, comme l'image du retraité, c'est le rentier. En fait, c'est exactement ce qu'on appelait dans la gauche d'avant le petit bourgeois, qui était la figure détestée. Et donc, de ce point de vue-là, c'est totalement un contre-emploi, si vous voulez. Et quand le Rassemblement national défend une politique sociale qui, d'ailleurs, est assez proche de la France insoumise, on a là une très, très grande confusion. Donc, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'au fond, les désaccords, sont engloutis dans une soupe. Et quand vous disiez tout à l'heure, les Gilets jaunes sont contre la démocratie, non. Ce qu'on appelle le mouvement populiste, c'est un mouvement hyper démocratique. On veut tout. On veut plus de peuple, on veut plus de pouvoir, plus d'efficacité, on veut tout. Et on renonce à ce que j'appelais cette déception démocratique sur laquelle il faut être un peu lucide.
Mais finalement, après les 3 mois de contestation, de mouvement social et de violence urbaine, qui est le gagnant de la réforme des retraites actuellement ?
Pas à grand monde. Il n'y a personne qui est gagnant. C'est justement ça le problème. C'est-à-dire que, alors pour le coup, votre question de tout à l'heure était légitime. Est-ce que la France, la démocratie s'en grandit ? Non, on est tous dans une situation où on se dit c'est pas brillant tout ça, c'est pas brillant. Personnellement, je pense que la réforme des retraites était absolument indispensable. Pas celle-ci, parce que celle-ci pouvait faire apparaître comme étant trop modérée ou trop dure. injuste et mal faite, mais une réforme des retraites est absolument indispensable à mes yeux. Enfin, c'est même une évidence au regard de la structure démographique de la France, de l'évolution. Enfin, on rentre dans la vie active à 25 ans, on a 25 ans de retraite moyenne en France et on a une espérance de vie de 80 ans. Vous faites le calcul, ça ne peut pas tenir. Donc il ne faut là pas être grand clair. Et si on veut défendre la retraite, il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est le point. Mais après ce qui me désespère, c'est l'incapacité, non pas tellement de se mettre d'accord sur des solutions, parce que ça, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord. Mais c'est l'incapacité d'un pays à se mettre d'accord sur le diagnostic. Et là, j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron de ne pas avoir fait une campagne électorale, parce qu'une campagne électorale, c'est en général le moment où on fait un diagnostic sur la situation politique. Alors, en général, on est toujours déçu, mais au moins, on se met au clair. Et je trouve que cette absence de campagne, qu'on peut comprendre pour des logiques d'art politique, hein, parce qu'un président réélu n'a jamais, qui veut se faire réélire, n'a jamais intérêt à se mettre à égalité avec les autres. Mais cette absence de campagne, aujourd'hui, on en paye le prix.
Vous êtes bien dans Cours d'honneur. Il est 20h passé de 23 minutes avec le philosophe, professeur de philosophie à la Sorbonne Université, Pierre-Henri Tavoyon. N'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Les étudiants de la Sorbonne planchent en ce moment sur les terribles partiels de fin d'année. Les DST et les DM s'enchaînent. Après les cruciales révisions de ces dernières semaines, alors on a demandé aux étudiants de la Sorbonne quel était leur lieu de révision privilégié. On les écoute.
Pour travailler, la BU, la BIS. Parce que c'est calme, qu'il y a des ressources, il y a des livres.
À la BIS aussi. Parce que c'est grand. C'est un lieu qui est vraiment agréable pour travailler. C'est beau, ça donne envie d'y aller. Puis c'est assez calme, ouais. Contrairement à d'autres bibliothèques.
En fait, je suis aussi à l'ENS en parallèle, donc j'aime bien la bibliothèque de l'ENS, principalement.
Soit la BIS, s'il y a de la place. Ou sinon, les patios, place de la Sorbonne, pour essayer de trouver un peu de calme et... une ambiance un peu plus chaleureuse que la BIS. À l'intérieur, c'est plus sympa.
Les patios, c'est un bar.
Ouais, c'est plus sympa.
C'est moi, beaucoup. Sous que là, je passais l'agrégation de philo, donc beaucoup chez moi. À la BIS, pas mal, surtout dans les petites salles, genre Aristote, etc. Et je suis un grand adepte du café, depuis toujours. Que ce soit à l'intérieur ou en terrasse, ça dépend s'il fait beau ou pas. C'est une ambiance, c'est un fond sonore, finalement, qui est assez calme. C'est très Nathalie Sarraut quand elle écrivait.
J'aime vraiment bien la bibliothèque Malesherbes. Sinon, j'aime bien la BU ici, mais il n'y a pas toujours des places.
Quartier jeune, donc QJ.
Siran, comment vous l'avez connu?
On l'a trouvé, je crois, sur
TikTok, je pense. Il faisait, au moment où ça a été ouvert, enfin, ça s'est ouvert, il y a eu pas mal de promos pour les jeunes, donc sur l'année dernière, je dirais.
C'est récent.
Oui, c'est assez récent, donc c'est pas ça qui est chouette, c'est pas super connu, donc il y a quand même des places, même en période partielle. Et puis c'est assez grand, il y a différentes pièces, même pour les projets de groupe et tout, c'est cool parce qu'on peut réserver, on peut juste prendre une salle. Et sinon, c'est super beau parce que c'est l'ancienne mairie de Paris, donc les moulures, les fresques et tout.
Alors, première question, vous, quel étudiant étiez-vous ?
J'étais un peu ici, hein, donc j'ai fait une partie de mes études à Saint-Étienne, après à Lyon, après en Allemagne et après à la Sorbonne. Voilà, donc j'ai passé mon doctorat, donc j'ai beaucoup travaillé à la BIS, alors ça ne plaît pas comme ça, mais c'était beaucoup moins confortable qu'avant. On passait des heures et des heures à attendre les bouquins. Mais voilà, j'ai pas mal de plaisir à travailler dans ces endroits. Et puis c'est vrai que. Le moment où je suis devenu enseignant ici, maître de conférence à Sorbonne Université, enfin la Sorbonne à l'époque, ça a été un moment d'émotion. Je me dis vraiment d'occuper ces murs. J'enseigne ici depuis 1997, donc tout ça ne nous rajeunit pas, vous voyez. Je fais à peu près le même cours en première année depuis 1997 sur le cours d'accueil de philosophie générale. Donc si je fais le compte de tous les étudiants qui sont passés... par moi, ça fait un petit nombre, il doit y avoir des petits-enfants déjà. Voilà, mais donc c'est un très grand bonheur d'être à Sorbonne et qui ne se cesse pas. Voilà, qui ne cesse pas, c'est toujours une émotion de rentrer dans ces murs.
Aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui a du mal à se concentrer ?
C'est une bonne question. Je pense que c'est une politique des petits pas. Une politique des petits pas, parce qu'on a beaucoup de... Voilà, il est très important de faire un audit au début de ses études supérieures sur soi-même. En termes d'orthographe, en termes de style, Et souvent, c'est très dur de le faire parce qu'on est culpabilisé, on a l'impression d'être en faute. Je pense vraiment que le début des études supérieures, c'est le moment où on peut tout rattraper. Voilà, tout rattraper, l'orthographe, la lecture. On est tous un peu inhibés quand on arrive, on se dit oh, « les autres en savent vachement plus que moi, je comprends rien ce que dit le prof, etc. » Eh bien, il faut vraiment avoir une politique laborieuse de construction de soi, reprendre les bases de l'orthographe, écrire des textes, écrire à sa grand-mère, à son poisson rouge. Moi, c'est ce que je dis aux étudiants avant les examens. Il faut pas, c'est comme pour le sport, il faut arriver échauffé. Et quand s'échauffer, ça veut dire écrire. Voilà. Il ne faut pas arriver simplement en ayant plein de choses et d'idées dans la tête. Il faut être entraîné à écrire, à faire des phrases, à faire des transitions, à faire des choses belles, à prendre le goût de l'écriture. Ce n'est pas simplement la lecture, c'est vraiment l'écriture. Et je trouve qu'on écrit trop peu. Parce qu'effectivement, quand on prend des notes, on n'écrit pas, en vérité. On n'écrit pas de phrases. Il faut écrire. Donc ça, c'est vraiment capital. Ce serait mon conseil principal. Retrouver, pour les humanités, bien sûr, vraiment retrouver l'art d'écrire.
Et alors, existe-t-il, selon vous, un lieu de travail idéal pour un philosophe? Et si oui, à quoi ressemble-t-il?
Non, l'avantage du philosophe, c'est qu'il travaille tout le temps. Voilà, il n'a jamais de vacances, tout terrain. Moi, c'est vrai que voilà, les idées peuvent s'être souvent en dormant d'ailleurs. Hein, on se réveille et puis hop, ça démarre. Le café, je suis aussi un adepte du café, parce que c'est vrai qu'effectivement, une ambiance particulière. La bibliothèque est un lieu monastique. Voilà, parfois, c'est très surprenant. Le métro, pourquoi pas. Ces moments où on arrive à se mettre dans une bulle, et on arrive effectivement à réfléchir. La mer, j'adore personnellement penser dans l'eau. Voilà, c'est un petit exemple. Je trouve que c'est très, très agréable. Il y a beaucoup d'idées qui viennent. Alors, je nage pas, je barbote. Mais le barbotage philosophique est une chose tout à fait extraordinaire. Voilà. Donc, voilà, ça, chacun trouve ses petites idées. Mais je pense que c'est vraiment... c'est le fil continu de la pensée. C'est comme une musique. Les phrases se font et la pensée arrive.
Pierre-Henri Tavoyot, professeur de philosophie à Sorbonne Université, dans Cours d'honneur, saison 2, épisode 5. Allez, on a du courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Place maintenant à la carte postale de Cours d'honneur. Chaque mois, on vous fait visiter un lieu emblématique ou méconnu de la Sorbonne. Cette semaine, c'est Cilia, notre guide, qui avec son ami se sont rendus aux toilettes du troisième étage de la Sorbonne Mère.
Alors là, on est au deuxième étage de la Sorbonne, près de l'UFR de philosophie, des salles F040, 41, tout ce genre de choses. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire pipi. Là, on est assez pressé par contre. Donc allez, pressons le pas. Le parquet grince, mais on presse pas.
Il faut vite retourner en cours après.
Et on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a quand même un cours
De grammaire.
Les portes battantes battent. La seconde porte battante bat également. Et là... Parfait. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a tiré la chasse?
On se lave les mains.
Absolument, on va se relaver les mains. On frotte. Alors, pour être plus précise, les paumes, le derrière des mains, l'interdoigt, le pouce, les poignets... Sans oublier les ongles. Très important. Ensuite, on rince. Et ensuite, on a un immense privilège à la Sorbonne, c'est d'avoir du papier pour s'essuyer les mains.
Alors, est-ce que tu peux nous lire un petit peu ce qui est écrit sur ces portes de toilettes? Parce que, visiblement, on a des revendications, des petites anecdotes personnelles, des slogans, des stickers.
Sur les toilettes, il y a une feuille où c'est noté « accès provisoirement condamné ». Il y a aussi une petite inscription qui dit « c'est peut-être un passage secret ». On ne saura pas parce que les toilettes sont condamnées. Sur les autres toilettes, donc les deux portes des autres toilettes, on a une série d'inscriptions.
Vive le feu, vive les fous.
Vive les gouines, ACAB, CNews en feu, Zemmour au milieu.
Vive la commune.
Bande de tarés.
Nique les fachos. Bon, on a beaucoup de choses, mais le message principal qui est inscrit au milieu de la porte et qui peut, je pense, résumer globalement tous ces dessins de toutes les toilettes, c'est nique le système.
Et aussi un message, je vais dire ça, ma meilleure amie s'est suicidée en 2017. Pense aux gens que tu aimes, ils t'aiment aussi. On n'est jamais complètement seul. Tu as demandé de l'aide, Il n'y a jamais de honte à demander de l'aide.
Je pense qu'on a bien l'occasion de le lire parce qu'il est vraiment à hauteur d'œil quand on est assis sur les toilettes.
Absolument.
Et puis beaucoup d'amour quand même, parce qu'on a principalement énormément des cœurs. En termes de motifs, c'est le cœur qui domine.
Du cœur, pour moi, ça c'est un cul.
Ah, c'est un cul ou un cœur?
Pour moi, c'est un cul.
Tu trouves? Parce que moi, j'y vois plus un signe d'amour que des fesses. Et en même temps, des fesses, c'est peut-être aussi
sur
l'amour.
L'inscription elle-même. Ouais. Moi, j'y vois un cul.
Tu vois un cul?
J'y vois un gros cul.
Mais un beau cul, cela dit.
Oui, 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 absolument.
Un d'accord. Beau cul. Ok.
Bien en chair, ouais. Mmh. Il y a également écrit ce qui compte, c'est la Bible. Entre parenthèses, contre-pétrie, lol, sauras-tu répondre? Moi, je ne l'ai pas. Ce qui bonte, c'est la cible.
Ce qui bonte, c'est la cible.
Non, je ne sais pas. Mais les mots compte et Bible sont soulignés. Donc la contre-pétrie porte sur compte et Bible. Ce qui compte, c'est la Bible.
Ce qui bombe.
Ce qui comble. C'est ça, ce qui comble, c'est la bite, c'est ça.
Ah, ce qui comble, c'est la bite.
Ce qui compte, c'est la Bible. Ce qui comble, c'est la bite. J'ai pas de stylo sur moi. T'as un stylo sur toi?
Je crois. Attends,
tu peux noter oui. O-U-I.
Souligné.
Évidemment.
Évidemment, de la triche quand même, parce qu'on est dans les toilettes.
Oui.
Donc, les téléphones portables.
J'ai beaucoup triché dans les toilettes de la fac. Oui, absolument.
Ouais. C'était quoi ton moyen de triche le plus élaboré?
Moi, je vis avec mon temps, donc moi, c'est le téléphone. Hein.
Ah ouais,
ouais oui.
Un petit PDF, une photo,
Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas non plus d'expérience dans ce domaine-là.
Ah, moi, si, bien sûr. Mais oui. Moi,
peut-être
je suis plus...
Moi, mais...
Non, moi, j'ai très peu triché, mais quand j'ai triché, j'étais plus au papier. Une fichette.
Moi, je vis avec mon temps.
Je pense qu'on peut quitter ces toilettes après cette exploration passionnante et surtout retourner en cours, Nina, parce qu'il faut étudier. Allez, c'est parti.
Allez, et on est très en retard.
Oui.
Alors, on devrait courir.
Allez, cours, cours, cours.
Ah, sinon, première question que j'aimerais vous poser. Quel est pour vous le lieu qui vous intrigue le plus à la Sorbonne?
Alors, c'est un lieu que je n'ai pas encore connaissance, mais je vais en avoir bientôt connaissance. C'est là où il y a des abeilles. Donc, normalement, il y a des ruches sur le toit de la Sorbonne. Quelque part, et donc là j'ai été contacté par un producteur pour un reportage, pour un documentaire sur les ruches de la Sorbonne. Donc je suis un peu sceptique parce que je ne savais pas qu'il y en avait, mais comme j'ai écrit un livre avec mon frère apiculteur sur les abeilles, sur l'abeille philosophe, donc ce documentariste m'a contacté pour qu'on aille ensemble visiter à la fois les ruches de la Sorbonne et puis celles du Luxembourg qui sont juste à côté. Il y a un grand club d'apiculture à côté, donc voilà, ça sera prévu pour bientôt, là, dans trois semaines, on va faire ça.
Et alors, quel est celui que vous rêveriez recevoir sur une carte postale, si vous en recevez encore?
De la Sorbonne?
Oui.
Moi, il y a une salle qui me fascine, c'est la salle des professeurs à côté de la bibliothèque. Vous savez, il y a une grande table. Alors, je ne sais plus maintenant exactement où c'est. C'est la grande table à l'époque où il y avait, je ne sais pas, peut-être 12 ou 13 professeurs. Et chacun avait sa chaise, sa chaire. Et donc, il y avait une grande table où je les imagine travailler ensemble. Même d'ailleurs, sans doute avec un peu de jalousie et de détestation. Hein, ça, c'est toujours comme ça dans les universités. C'est un lieu assez émouvant parce que voilà, c'était l'époque où il y avait 12 profs, comme les apôtres.
Et quel lieu décrirez-vous à un étranger qui ne serait jamais venu à la Sorbonne?
Le lieu plus spectaculaire, c'est quand même la cour d'honneur. C'est surtout la cour d'honneur. Alors, un soir, plutôt d'hiver, une nuit claire, la lune, les étoiles et la bibliothèque de la Sorbonne allumée. Là, je crois que c'est vraiment l'image absolument sublime et on ne peut pas la voir sans émotion.
Et alors, pour terminer, quelle est l'anecdote la plus originale que vous avez entendue sur la Sorbonne?
L'anecdote la plus originale entendue sur la Sorbonne? Ah, vous auriez dû me poser la question avant. Parce que là, franchement, il n'y a pas de choses qui me viennent à l'esprit. Non, c'est au-delà des anecdotes, c'est toujours... Si peut-être une fois où j'ai vraiment cru que j'allais personnellement être enfermé dans la Sorbonne et y passer la nuit. C'est parce que j'étais... les couloirs et les passages secrets ont fait qu'à un moment donné, il y avait une sorte de blocage, mais c'était plutôt une alerte. Et j'étais totalement perdu. C'était dans la Sorbonne. Personne n'était là. Quoi. Je me suis senti devoir passer la nuit... Pas franchement d'angoisse absolue, mais un sentiment étrange, un petit picotement, de rencontrer les fantômes de la Sorbonne.
Et alors après cette dernière question, il y a toujours une deuxième dernière question, qui est un passage obligé. Que représente la Sorbonne pour vous?
La Sorbonne, pour moi, c'est vraiment ces deux choses très différentes, mais qui se réconcilient. C'est à la fois l'époque médiévale des disputationes, c'est-à-dire des disputes entre les savants. C'est alors évidemment Héloïse et Abélard, c'était avant, mais c'est cette époque de foisonnement de l'esprit, d'une corporation. Alors qui est très, très peu moderne, hein, c'est vraiment l'esprit médiéval, et puis la refondation républicaine. Et donc la Sorbonne aujourd'hui représente la fusion de ces deux univers, donc d'une certaine façon une histoire de France réconciliée. Et c'est vrai que quand je suis là, je me dis, bah voilà, il y a quelque chose du temps long, d'une France qui n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui, il y a une refondation républicaine, et puis il y a le Wi-Fi. Voilà. Donc on a les trois ensemble, l'hypermodernité, la modernité et l'époque médiévale. Voilà ce qui me marque le plus à la Sorbonne.
Merci Pierre-Henri Tavoyau d'avoir prêté votre voix à cet exercice, d'être venu dans le 19e épisode de Cours d'honneur. Merci beaucoup, à bientôt. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away, the pain away. I'm gonna wear my favorite color tonight. I'm gonna shake it like the thunder tonight. All my dreams top of my head. How far can I get? I hope it's not too late to find. 'Cause I feel like I've been going under. I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away, the pain away. I'm gonna wear my favorite color tonight. Oh my. I'm gonna shake it like the thunder tonight. Oh my. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away, the pain away.
Connu ou mal connu, excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
C'est la dernière émission de Cours d'honneur de la saison 2. Bravo à nous! Merci à nos auditeurs de nous avoir supportés aussi. Pendant toute une saison, vous nous avez suivis sur tous les réseaux sociaux, vous nous avez suivis, vous nous avez supportés, vous nous avez écoutés. Merci de votre fidélité. Je voudrais passer d'abord un petit merci à tous ceux qui ont participé à l'aventure. Merci à Clara, Amélie, Abel, Cilia, Tibor, Emma, Sixtine, Pauline, Juliette, Larissa, Marine, Annie, Rosalia, Clémence. Merci à vous d'avoir participé à cet épisode. On va faire un petit topo de la saison. On va commencer par le seul garçon qu'il y a autour de ce plateau. Abel, quels sont tes meilleurs souvenirs ou tes pires peut-être souvenirs de la saison?
Bonjour à tous. Merci de m'avoir écouté toute cette année. Je pense que mon meilleur souvenir de cette saison, c'est sûrement l'émission en direct qu'on a fait à Malesherbes, qui était vraiment sympa. Ça nous a appris quand même à comment on fait une émission en direct et que c'est vraiment pas facile. Et peut-être le pire, c'est il y en a pas, c'était tellement parfait.
Incroyable, que du love, incroyable. Que du kiff. On continue le tour de table, Lodine.
Moi, meilleur souvenir. Franchement, je pense que c'est la première émission que j'ai faite. En plus, c'était dans des conditions. C'était dans ton appart parce que il n'y avait pas la place. C'était fermé, je crois.
Eh oui. Mon appartement s'est prêté au jeu, mon feu appartement d'ailleurs que je n'occupe plus aujourd'hui. Et excellent souvenir. Juliette, meilleur souvenir de la saison ?
Le meilleur souvenir, c'est quand j'ai dû faire un reportage sur Starmania. Et du coup, on a eu le droit à deux places gratuites en carré or pour Radio Sorbonne pour regarder le spectacle. Mais malheureusement, le reportage, c'est aussi le pire souvenir parce que le reportage ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas pu... On n'a pas pu interviewer les chanteurs, donc j'avais un peu la rage, mais c'est pas grave. Mais c'était très bien, voilà, j'ai beaucoup aimé.
Alors moi, j'attends le deuxième round, puisque Starmania revient en novembre à Paris pour la prolongation de cette tournée-là. Donc, cette fois-ci, vous entendrez un reportage de Juliette réalisé sur le retour de Starmania, mise en scène par Thomas Joly. Pauline.
Moi j'ai aimé vraiment toutes les émissions. C'était pas le pire souvenir, mais en tout cas j'avais bloqué la porte. J'étais enfermée dehors avec mes invités. C'était mes premières invités. C'était deux professeurs de culture russe et
Luba Jurgensen, voilà. et
Clara Royer.
Clara Royer.
Ouais, voilà. Et en fait on s'était enfermé dehors et je pouvais pas rentrer et on devait faire l'interview. Du coup c'était la première fois que je passais à la radio. Enfin du coup voilà, c'était un peu cocasse. Voilà.
C'est vrai que c'est du stress la radio, hein, on l'oublie souvent. Sixtine, un peu de stress toi cette saison ?
Moi je pense le meilleur et le pire à la fois, ça a été l'émission en direct parce que c'était très sympa de parler et tenir une conversation avec les gens, mais des fois voilà, j'étais un peu prise de court quand il fallait faire les micro-trottoirs en direct et on devait réagir au plus vite, donc c'était cool, un petit peu d'adrénaline effectivement, mais j'ai bien aimé.
Amélie, qui nous rejoint, qui nous fait l'insigne honneur d'être avec nous. Salut Amélie.
Bonjour. Moi, je pense que mon meilleur souvenir, c'est une des dernières soirées où RSU en fait était présent pour interviewer. C'était assez marrant parce que donc j'ai pu interviewer de 23h jusqu'à non même 21h jusqu'à 1h du matin. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes réponses en interviewant des personnes à 21h quand ils n'ont pas trop d'alcool en eux. Et à 1h du matin, quand ils en ont un petit peu plus. Donc c'était assez drôle, on a eu de très bonnes réponses.
Le diable au corps qui s'empare des auditeurs d'RSU. Julie est avec nous également. Julie, oui. Tournez le micro doucement parce qu'ils sont fragiles.
Moi, mon meilleur souvenir, c'est pas en rapport vraiment avec l'émission. C'est plutôt le moment où on a croisé des membres de Radio Sorbonne Université par hasard dans la rue un vendredi soir et on a tous fini à faire soirée chez moi. Soirée qui a fini à pas d'heure parce que l'envie de célébrer la radio ensemble était plus forte que tout, même le week-end.
Mais oui, la radio c'est avant tout des connexions, on est connecté avec vous, avec cette émission, vous le savez, qui a lieu un samedi par mois sur Radio Campus Paris 93.9. On est relié par les ondes, on est relié par les émotions, les sentiments, par la voix. Ce fil tendu, ce pont jeté entre vous et nous. Vous pouvez d'ailleurs continuer à nous suivre tout l'été puisqu'on a un beau programme d'ailleurs au rendez-vous. Abel, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot là, des programmes, du programme estival de RSU dont on a parlé ?
Ah oui, alors donc cet été, vous pourrez retrouver chacun des membres de cours d'honneur en vacances qui nous enverront des cartes postales sonores depuis des destinations qui vous font rêver parce qu'on a des gros budgets et pas vous.
Alors qui nous fera le plus rêver autour de cette table ? Levez le doigt. Qui est Juliette, c'est toi qui nous fais rêver cet été avec ta carte postale ?
Je tiens à préciser, Abel, tu parles de vacances, mais il y en a qui sont en stage, du coup je suis très triste. Donc je vous ferai rêver depuis mon bureau.
Est-ce qu'on fait des stages en L1 ?
Ouais, on fait des stages quand on est déterminé ou pas. Non, c'est vraiment depuis mon bureau de community manager. Voilà. Mais j'espère que d'autres personnes vont partir très très loin, parce que Abel a dit tout à l'heure qu'il allait partir très très loin, et j'espère qu'il va nous faire rêver.
Après, vous savez, hein, l'aventure, elle est là, hein, juste au bout de la rue. Il suffit juste de changer sa façon de voir les choses et la façon dont on voit le monde. Sixteen, tu veux nous faire rêver, toi ?
Justement, effectivement, pour moi, vacances, parfois, ça peut un peu rimer avec ennui. Donc, comment faire quelque chose avec, finalement, du rien, quoi ? Ça va être le défi de cet été.
Et l'ennui est très bon, puisque c'est à ce moment-là que l'on entre en introspection. L'été est une période propice à savoir reposer un peu le pour et le contre en nous. Est-ce qu'il y en a qui font un peu d'introspection cet été ou au contraire ça va être la teuf là, Pauline, Laudine, Julie?
Bah, moi je pense que ça va être plus team teuf parce que je pars en Grèce rejoindre une amie en Erasmus là-bas, donc j'essaierai de vous faire profiter un peu.
Ah bah sympa, sympa la Grèce, j'espère que t'auras bien chaud et que tu vas bien suer, que tu vas bien prendre des coups de soleil.
Ah bah merci, c'est gentil.
Pendant que nous on sera au boulot effectivement. Les filles, Pauline, Julie, faites-nous un peu rêver avec votre programme estival.
Je sais pas si ça fait rêver, mais du coup, je vais être agent de surveillance dans un musée, de nouveau. Mais voilà, du coup, mais moi, j'aime bien. Et puis après, je pars à Rome, donc c'est sympa. Puis après, avec des amis à la mer, à la plage, près de... non, Cannes-sur-Mer, Nice, c'est la plage, ouais, la mer. Oui, voilà.
Ouais.
Bah, quel musée? Musée Guimet.
Ah, sympa, ouais, musée j'adore. Des arts asiatiques. Qui se trouve place de Iéna, oui. Dans le 17e arrondissement.
C'est le
16e.
C'est le 16e déjà. Abel, c'est le vrai Parigo de ses morts. Elle va pas rester à Paris, je pense, cet été. Julie, non, toi, tu regagnes tes pénates du Sud.
Je vais passer un petit moment à Roquebrun, c'est un petit village dans l'Hérault. Pour garder le chat d'une amie, j'aurai la maison pour moi toute seule. Et je vais sûrement inviter d'autres amis dans cette maison-là, si j'en ai l'accord.
Et parce que le chat est carrément cool, c'est
oui,
ça.
Le ouais. Chat est carrément cool, il faut absolument le voir.
Ah, voilà, ouais.
Voilà, je vais travailler en restauration en intérim tout le mois de juillet à Paris pour me faire un peu de sous et juste être libre en août et faire des choses en fonction de mes envies.
Un peu de sous-sous donc pour cet été, il va en falloir si on veut dépenser. Bon bah écoutez, chers amis, merci beaucoup en tout cas pour cette année passée ensemble, elle fut riche. Elle fut pleine de surprises. On a fait le tour un petit peu de vos programmes d'été, non? Amélie, tu me tournes le dos. Je sais plus si tu nous as raconté. Toi, tu retournes dans les Pyrénées, non?
Alors moi, mon programme d'été, qu'est-ce que ça va être? Bah, ça va être un petit job d'été parce que l'année en Erasmus ne va pas se financer toute seule. Donc, à un moment, il va falloir un petit peu bosser avant de partir.
Mais voilà, que vous bossiez, que vous partiez en vacances, RSU vous accompagne. Vous pouvez bien sûr retrouver tous nos épisodes en replay, en podcast, tous les cours d'honneur sur le site de radiocampusparis.fr et sur les plateformes de RSU, Radio Sorbonne Université est là pour t'accompagner parmi les monts et les contrées que tu seras amené à rencontrer. On vous donne rendez-vous à la rentrée. Rentrée scolaire universitaire, ce sera la troisième semaine de septembre d'ailleurs. Et il me semble qu'on sera en direct, ceux qui ont apprécié. Vendez-nous un peu du rêve avec les programmes de cette émission que l'on va réaliser en direct. A priori de Clignancourt pour les Welcome Day.
Ouais.
On a des débats, il me semble, je sais pas, des quiz.
Alors,
des machins,
il y aura
racontez-moi.
Des quiz vraiment très bien ficelés sur les différents campus de la Sorbonne, mais aussi sur des génériques de séries. Il y aura aussi des débats sur la fête, sur l'insertion dans le monde professionnel. Et sur plein d'autres choses.
Voilà, plein de débats avec les meilleurs spécialistes de Sorbonne Université qui viendront nous raconter leurs petits tips pour bien se retrouver dans cette fac. À la rentrée, on sait que c'est difficile. On sait que c'est difficile, les études. Mais pour autant, RSU est là pour t'accompagner toute l'année. RSU, c'est comme une lumière dans la nuit. Un phare qui va te guider au milieu de ce dédale de grands amphis, de grands escaliers, de toutes ces ailes perdues, des étages qui continuent d'un niveau et pas sur l'autre. Voilà, on est tous passés par là au moins une fois. Et toi qui découvres cette année la Sorbonne, sache que nous pourrons t'aiguiller, nous pourrons t'accueillir chez nous. Parce que RSU, c'est une grande famille, on fait de la radio bien sûr, mais on fait avant tout du lien. On est des créateurs de liens. C'est ça le sens de l'audio, c'est ça le sens de la radio, c'est ça le sens du podcast. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez bien sûr nous écrire. La période de recrutement s'ouvrira à partir de septembre. On va partir ensemble pendant trois mois de vacances pour ceux qui en ont la chance, les autres qui bossent comme moi. Eh bien, on vous fera vivre nos traités palpitants au travers de toutes nos cartes postales sonores. Merci à vous d'être autour de cette table.
Merci à toi aussi, Thomas.
Autour de ce studio, merci d'avoir participé à cette grande aventure de Radio Sorbonne cette année. Et j'espère qu'on se retrouve l'an prochain.
Oui.
Ouais, vous êtes tous là. C'est un petit oui, ça. Hein. Ouais. Allez, bon, ben dans ce cas-là, alors, à l'année prochaine, tout le monde. Merci. Ciao. Bye.
pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.